Dans une chanson que j'ai écoutée dernièrement, Zach, merci mon frère, Zach Williams, son auteur et interprète, dit dans le refrain: si tu as besoin de libération, de liberté ou de salut, il est un sauveur qui fait trembler les prisons. Si tu as des chaînes, il est un briseur de chaînes. Il, vous l'avez bien compris, c'est bien évidemment Jésus. Jésus qui affirme dans l'évangile de Jean au chapitre 8 une parole qui donne sens à ce refrain ce matin. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère, vous rend libre, vous serez réellement libre. Ah, la liberté. Voilà un mot que l'on aime. Voilà une notion qui nous plaît. Liberté, égalité, fraternité. Non, rassurez-vous, je ne suis pas en campagne électorale. Mais qui ne désire pas être libre? Qui ne désire pas vivre libre? Mais qu'est-ce que la liberté? Très vite, en réfléchissant à cette notion, nous constatons que nous ne parlons pas tous de la même chose lorsque nous parlons de liberté. Pour certains, elle commence là où s'arrête celle des autres. Alors que pour d'autres, elle ne connaît pas ou peu de limites. Et tout ça dans des domaines aussi variés que la liberté d'expression, la liberté d'action. Qu'est-ce que la liberté? Que faites-vous, que faisons-nous, que fais-je avec ma liberté en Christ? Est-ce que je dois faire ce que je veux tout en ayant cette liberté en Christ? Aujourd'hui, je décide de faire quelque chose parce que justement j'ai cette liberté ou parce que Christ me donne cette liberté. Alors je décide de venir ou pas à l'église un dimanche sur deux. Et puis, qu'est-ce que la liberté dont parle Jésus dans ce verset? Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Réellement libre. Mais libre de quoi? Libre comment? Libre pour quoi faire? Voilà quelques-unes des questions que je vous propose ce matin de considérer sur la base de notre réflexion. Et pour ce faire, je vous invite à lire cette parole dans son contexte. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et je lis les versets 30 à 36. Évangile de Jean, chapitre 8, versets 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, pour d'autres versions. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libre. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure. Toujours. Et si donc le Fils vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libre. Comme à son habitude, Jésus enseigne. Il enseigne et il nous dit, nous lisons au verset 30, comme il parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui. Voilà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais qui est accompagnée d'une difficulté dans notre texte. Une difficulté car C'est à ceux qui ont mis leur foi en lui que Jésus s'adresse dans notre texte. Et ce qu'il leur dit est pour le moins surprenant. Verset 31, regardez. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, et que leur disait-il? Verset 34, qu'ils sont esclaves du péché. Verset 37 à 40, ce n'est pas écrit dans le texte, mais vous pouvez suivre dans votre Bible. Verset 37 à 40, qu'ils cherchent à le tuer. Verset 37, que sa parole ne trouve pas de place en eux. Verset 44, qu'ils ont pour père le diable. Verset 47, qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est plutôt surprenant, non? C'est plutôt surprenant quand on considère que Jésus s'adresse ici à ceux qui ont mis leur foi en lui. Comment comprendre cette difficulté? Vous vous en doutez bien qu'il y a déjà eu beaucoup d'explications qui ont été proposées pour essayer de trouver un sens à cette difficulté. Donc, il serait beaucoup trop long pour moi d'entrer dans les détails. Alors, je vous livre simplement ce que l'Esprit m'a autorisé de retenir comme compréhension et que je formule ainsi. Jésus s'adresse sans doute ici à un groupe de Juifs dont certains, je dis bien certains, n'ont pas la foi véritable, mais ce que l'on pourrait appeler une foi de circonstance, une foi instable, une foi changeante, une foi qui ne persévère pas et donc pas une foi authentique et véritable. Jean, dans son évangile, a déjà parlé de ce type de situation. Il a déjà été confronté, Jésus a été déjà confronté à cette même problématique. Nous lisons, par exemple, au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Vous pouvez suivre sur l'écran, dans l'évangile de Jean, les versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui. C'est la même chose. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il connaissait, il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Frères et sœurs, Jésus ne se laisse pas tromper. Jésus voit les cœurs. Il sait faire la part des choses en une foi authentique et une foi de circonstance, une foi d'un intérêt passager. Et je propose donc ici de comprendre notre texte avec cette clé de lecture que je viens de donner. Revenons à notre texte. Que dit précisément Jésus à ces Juifs? Il commence par leur dire que ce qu'est un véritable disciple. Verset 30 et 31, comme il parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment disciple. Le vrai disciple de Jésus n'est pas celui qui croit sous l'émotion du moment et qui passe ensuite à autre chose. Ce n'est pas non plus celui qui vit sans tenir compte de ce qu'il a entendu, de ce que Jésus a dit. Le vrai disciple de Jésus, frères et sœurs, c'est celui qui garde, qui demeure dans sa parole, qui persévère, celui qui cherche à s'en nourrir, celui qui cherche à mieux la comprendre, celui qui obéit, tout simplement. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est ainsi. C'est aussi ce que Jean dira plus tard dans sa deuxième épître. Verset 9. Quiconque va plus loin, dit-il au verset 9, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Dans quoi demeurons-nous? Dans quoi demeures-tu ce matin? Dans quoi demeurez-vous ce matin? C'est celui qui garde l'enseignement de Jésus pour en vivre qui a le Père et le Fils, qui est vraiment, véritablement disciple de Jésus-Christ. Après avoir précisé ce qu'est un vrai disciple, ce qu'il fait, oui, parce que le vrai disciple, il garde la parole, Jésus poursuit en soulignant une conséquence de cette parole qui est accueillie, cette parole qui est gardée, par laquelle le disciple vit. Oui, le vrai disciple de Jésus vit par sa parole. Versets 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous affranchira pour certaines versions. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Frères et sœurs, gardez la parole. Demeurez dans la parole de Jésus-Christ. C'est connaître la vérité de Jésus. Et connaître la vérité, c'est être libre. C'est donc la parole que nous accueillons et que nous gardons qui nous amène à connaître la vérité et qui nous libère. Cette parole qui doit être gardée, et qui est la vérité, c'est bien évidemment tout, avant tout l'enseignement de Jésus. Et pour faire simple, c'est le salut qui est en Jésus-Christ. Mais aussi bien plus que cela, puisque c'est la vérité, c'est avant tout autre chose, une personne, la vérité, Jésus est la vérité. C'est le Christ lui-même. C'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Je suis... Je vous propose d'entrer un peu plus dans l'articulation des choses. Ce dont il est question ici, ce n'est pas de connaissance intellectuelle, ni théologique, ni théorique. Ce dont il est question ici, ce n'est pas la vérité de Jésus de l'Évangile. Ce dont il est question ici, c'est d'obéissance et d'attachement au Seigneur. C'est de s'attacher au Christ dont il s'agit. C'est de le suivre lui. C'est d'accueillir sa parole et d'en vivre jour après jour. Et lorsque cela se passe ainsi, frères et sœurs, alors la vérité nous libère. La vérité m'affranchit. Encore, entrons un peu plus dans l'articulation des choses. Bien sûr, ce qui se passe ici est avant tout du domaine de Dieu. C'est lui qui nous délivre. C'est son intervention qui est déterminante. Nous ne pourrons jamais nous libérer nous-mêmes. Essayez, vous allez voir. Nous allons vite nous rendre compte que nous ne pouvons pas le faire tout seul. Ceci dit, rien ne se fait néanmoins sans nous. Rien ne se fait contre notre gré, rien ne se fait à notre insu. Nous avons notre part de responsabilité dans ce processus. Et notre part, c'est d'y croire. C'est de nous attacher à Jésus. C'est demeurer en lui, c'est de recevoir sa parole, c'est d'y obéir, c'est d'y persévérer. Et c'est d'y vivre. Et lorsque nous agissons ainsi, frères et sœurs, alors la vérité que nous avons accepté et que nous suivons, nous libère. Alors nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Alors nous pouvons connaître la délivrance des chaînes qui nous entravent tous les jours. L'affirmation de Jésus concerne la liberté, bouscule ses auditeurs. Et nous aussi, certainement, nous bouscule aussi ce matin. Que faisons-nous de cette liberté en Christ? Mais pourquoi Jésus parle-t-il de liberté? Puisque ici les Juifs, ils le disent, ils ne sont esclaves de personne, verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes esclaves, jamais esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libre, puisque nous n'avons jamais été esclaves. À l'évidence, ces Juifs se croyaient libres. Ils considéraient même qu'ils n'avaient jamais été esclaves de personne. Comment le comprendre alors que, dans leur histoire, qu'ils n'ont pas cessé d'être esclaves d'autres nations? Esclaves de l'Égypte, esclaves des Assyriens, esclaves des Babyloniens, esclaves des Grecs. Et là, au moment où Jésus leur parle dans le texte, c'est vrai, ils ne sont pas tout à fait esclaves, mais ils sont sous l'occupation romaine. Mais en réalité, ce n'est pas de cela, frères et sœurs, ce n'est pas de cela dont Jésus parle. Et puis, ce n'est pas de cela non plus que les Juifs font allusion. La liberté à laquelle ils pensent, c'est à leurs yeux une conséquence directe de leur statut privilégié. Ils sont de la descendance d'Abraham. Voilà leur statut. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire ça? Comment est-il possible que tu nous traites ainsi? Vous deviendrez libres. Nous n'avons jamais été esclaves. Quelquefois aussi, nous pensons que nous ne sommes jamais esclaves de nos péchés ou d'autres choses ou des passions dans nos vies. Alors que justement, nous nous mentons à nous-mêmes, nous sommes esclaves de ces choses. Les Juifs auxquels Jésus s'adresse ici, et c'était le cas de beaucoup d'autres aussi, pensaient que le statut de la descendance d'Abraham leur assurait une catégorie à part, les plaçait dans une catégorie à part, leur assurait des privilèges et les rendrait libres. Ah. Mais les Juifs, tout comme nous quelquefois, se trompaient lourdement à ce sujet. Ils se faisaient des idées, des illusions, ils se fouvoyaient. Tout comme il pensait dans l'évangile de Marc qu'il n'avait pas besoin de médecin. Vous vous rappelez de cet épisode? Qu'il n'était pas spirituellement malade. Souvenez-vous de ce passage où Jésus dit qu'il est venu non pas pour les bien portants, puisque c'est ce qu'il pensait être, bien portant, mais pour ceux qui sont malades, pour ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu. Et ici, ils pensent qu'ils ne sont pas esclaves de personne, et ils pensent qu'ils sont libres. Frères et sœurs, il est en réalité très facile, même pour nous ce matin, de nous tromper sur notre compte, de se tromper sur son état spirituel quand nous sommes loin de Dieu, de se tromper de ce que Dieu pense de nous quand je ne le connais pas vraiment. Connais-tu vraiment Jésus ce matin? Il est facile, arrangeant même, de penser que Dieu jette un regard favorable sur moi. Eh oui, c'est le bon Dieu, il aime tous les hommes. Il jette un regard favorable sur nous, parce que nous le valons bien. Parce que nous ne sommes pas si mauvais que ça. Parce que nous le méritions. Parce que, par exemple, nous serions une catégorie à part comme celle d'être né dans une famille chrétienne. Les Juifs, avec leur statut de descendance d'Abraham, raisonnaient ainsi. Mais ce raisonnement fonctionne avec des œillères, des préjugés. Ils n'en sont pas conscients. Mes frères et sœurs, ils sont esclaves, ils ne sont pas libres. C'est difficile pour le chrétien de ne pas se rendre compte de son état. Ils sont de la descendance d'Abraham. Mais cela ne les empêche pas d'être esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves du péché, dit Jésus. Du péché car ils pratiquent le péché. Du péché parce que tout homme est pécheur. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Du péché parce qu'être de la descendance d'Abraham ne change rien à cette réalité. Je suis pécheur et je le reste. Tout homme né en Adam est esclave du péché. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et pour enfoncer le clou, un petit peu plus, Jésus utilise une petite parabole, une toute petite parabole. Verset 35. Que dit-il ? Or, dit-il, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, lui, demeure toujours. L'esclave n'a pas le privilège du fils. C'est le fils qui est libre. C'est le fils qui est l'héritier. C'est lui qui peut demeurer pour toujours dans la maison. C'est lui qui a l'autorité et la puissance du Père. Pourquoi ? Pour libérer l'esclave et en faire un membre à part entière de la maisonnée. Et ce fils, ici, vous l'avez bien compris, c'est Jésus. Et Jésus, ici, est en train de se positionner comme celui qui seul, frères et sœurs, seul peut délivrer de l'esclavage, du péché. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il est le Fils. Et nous arrivons ainsi à notre verset 36 qui nous dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Pas dans l'illusion de la liberté qui était celle des Juifs auquel Jésus, bon fait, s'adressait. Pas dans la tromperie de tous nos efforts vains pour y parvenir par nous-mêmes. Nous n'y arriverons pas. Réellement libre. Parce que c'est l'œuvre du Fils. Et c'est l'œuvre du Fils seul. Parce que le Fils agit toujours dans la perfection. Parce qu'en tant que Fils, il a l'autorité et la puissance d'agir pour nous libérer de l'esclavage du péché. Une précision s'impose à ce stade. Réellement libre. Réellement libre ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Réellement libre ne veut pas dire que nous ne pécherons plus jamais. Réellement libre ne veut pas dire que nous sommes débarrassés à jamais du péché, ou du moins pas ici-bas. Si le chrétien trouve, frères et sœurs, si nous trouvons notre libération de l'esclavage du péché, c'est en Jésus seul que nous allons le trouver. Et même si nous trouvons cette liberté, cette libération en Christ, il n'en reste pas moins, nous serons toujours des pécheurs. Et nous le resterons jusqu'à notre mort physique. Et la libération de l'esclavage du péché dont il est question ici, ce n'est pas l'abolition à jamais du péché dans notre vie. Mais frères et sœurs, c'est la fin du péché qui nous domine. C'est la fin du péché qui nous enchaîne. C'est la fin du péché qui caractérise la vie de celles et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Où en sommes-nous ? Où en êtes-vous ? Parce que oui, finalement, il arrive que le chrétien pêche. Il arrive qu'il tombe. Il arrive qu'il succombe parfois au désir mauvais de son cœur. Il arrive ces choses parce que bien que notre esprit soit bien disposé, notre chair est faible. Notre nature pécheresse est faible. Et il faut bien faire la distinction, frères et sœurs. Il faut bien faire la distinction entre deux choses. La distinction entre le péché occasionnel, celui dans lequel nous tombons parfois, et le péché que j'appelle, moi, le péché récurrent, le péché comme par habitude de vie. Ce que Jésus m'offre en m'affranchissant de l'esclavage du péché, c'est la possibilité de dire non. Mais non avec efficacité. Au péché dans ma vie. C'est le moyen aussi de briser le cercle vicieux du péché en moi. C'est une alternative à la tyrannie du péché dans ma vie. C'est la possibilité de choisir de vivre non plus dans le péché, mais dans l'obéissance à la vérité de Dieu qui me libère. Et puis par-dessus tout, ce que Jésus m'offre, c'est toujours, toujours sa grâce. Toujours sa grâce. Sa grâce qui me relève quand je tombe et que je le reconnais. Sa grâce qui me pardonne quand je me repens de mon péché. Qu'est-ce que la liberté que Jésus m'offre? Ce n'est pas la fin du péché dans ma vie. Cela vient après dans la gloire. Ce n'est pas la licence de continuer à pécher en abusant de la grâce de Dieu. Eh bien, puisqu'il y a la grâce de Dieu, eh bien, allons-y. Puisque la grâce abonde, puisque le péché abonde, la grâce va surabonder. Je crois que c'est Romains chapitre 6, verset 1er. Ce n'est pas non plus s'en tenir compte de ceux qui sont autour de moi, au risque d'être pour eux une occasion de chute. Lorsque nous demandons aux gens de se mettre en règle avec le Seigneur, ce n'est pas par plaisir, mais parce que nous pouvons être des occasions de chute pour certains qui nous entourent. La liberté que Jésus me donne, c'est la liberté de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est la liberté de pouvoir obéir à Dieu. C'est la liberté de pouvoir renoncer au péché et à ses exigences. Et à tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous fait miroiter, je dirais, qui ne sont que tromperies. Parce que la liberté que le péché nous fait miroiter, frères et sœurs, soyons conscients, c'est toujours une prison. C'est toujours un enchaînement, c'est toujours un esclavage. C'est la liberté de la soumission à Dieu et non plus à la soumission au péché. Jésus est venu pour nous sauver, c'est vrai, certes. Ça, on le sait, on le répète assez souvent. Mais il est venu aussi pour nous libérer de l'esclavage du péché dans notre vie. Et cette libération, elle était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un truc que Jésus a dit comme ça pour faire bien aux Juifs. Non, c'est quelque chose qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur était sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je pense qu'ici qu'il faut comprendre les choses beaucoup plus largement que ceux qui sont derrière les barreaux. Il est question ici de l'emprisonnement du péché. La libération que le Messie apporte, que Jésus apporte, c'est la libération de l'esclavage du péché. La libération de l'esclavage du péché qui nous domine, qui nous tyrannise et qui nous rend esclaves. Frères et sœurs, attention tout de même. Attention ici de ne pas nous exclure du tableau que nous sommes en train de peindre. Il est, je pense, relativement facile pour chacun de nous de penser que cela ne nous concerne peut-être pas tant que ça. Non pas parce que nous sommes de la descendance d'Abraham, mais parce que nous ne sommes pas si mauvais que ça, après tout. Rappelez-vous du publicain et du pharisien. Pourtant, je suis persuadé que nous sommes tous autant concernés que ces Juifs auxquels Jésus s'adresse dans notre texte. Je suis convaincu, persuadé. Pourquoi ? Parce que nous sommes aussi, nous, des pécheurs. Parce que nous aussi, nous sommes esclaves du péché. Si nous pratiquons, bien sûr, le péché. Si nous pratiquons, bien sûr, le péché. Oui, parce que pour nous aussi, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes tous concernés. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour chacun de nous. Jésus, le nouveau Moïse, est venu pour accomplir un nouvel exode. Et cet exode nous amène de l'esclavage de l'Égypte, de notre péché, jusque dans le pays promis de la libération en Christ. Amen. Il faut, pour cela, reconnaître notre besoin de lui. Reconnaître que nous sommes esclaves du péché que nous pratiquons. L'accueillir, lui et sa parole. Le suivre en vivant de sa parole qui est la vérité et qui nous libère. Frères et sœurs, et je termine. Y a-t-il des chaînes dans notre vie? Y a-t-il des habitudes mauvaises dont nous sommes les esclaves? Y a-t-il dans notre vie des addictions qui petit à petit nous détruisent de l'intérieur et détruisent peut-être ceux qui sont autour de nous? Y a-t-il dans notre vie des passions qui nous empêchent de suivre le Christ? Je n'ai rien contre les passions, mais ceux qui nous empêchent de suivre le Christ, il faut absolument que nous les combattons. Il y a certainement des choses qu'il nous faut revoir dans notre vie. Et moi le premier, Jésus est venu proclamer la libération aux captifs. Et aujourd'hui, c'est peut-être le premier jour d'une nouvelle vie pour vous, pour nous, pour moi, pour toi. D'une vie où nous connaîtrons, où nous commencerons à dire non à ce qui nous domine. D'une vie où nous commencerons à dire non au péché dans notre vie. D'une vie où nous choisirons de dire oui, oui à Jésus. Oui à la vérité qui me libère. Oui à la vraie liberté qui se trouve en Jésus. Et en Jésus seul. Frères et sœurs, que Dieu, par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous fasse à chacun cette grâce d'être libre en lui. Amen. Amen.